Ouais, je suis dû d'ailleurs. Moi. Je vais être obligé de faire un tour chez Scovision. J'ai commencé à porter, tu sais, des lunettes de lecture là, qui vendent là, dans les. Dans les Costco, les pharmacies, etc. J'ai commencé ça. C'est juste que ça va pas très bien, ces lunettes-là. C'est que si tu veux lire une page de journal au complet, rapidement, là, faut. Tu sais, ça va bien quand tu lis un texte, un livre, mettons, un roman, mais si tu lis plusieurs textes en même temps, tu balayes ça vite. C'est pas terrible. On est rendu là. Hey, on accueille notre journaliste Philippe Rodrigue Comeau en studio parce qu'il y avait un témoignage très attendu, Philippe, qui débutait ce matin. Concernant, ben c'est l'enquête du coroner, de la coroner Gamel, concernant ce qui s'est passé dans les CHSLD lors de la première vague. Une situation qui a été décrite, entre autres, par la protectrice du citoyen. On sait déjà un peu ce qui s'est passé. Pas de personnel, pas de boss non plus dans les CHSLD, pas de matériel de protection. Et ça a tourné comme ça a tourné, malheureusement, avec plusieurs morts, beaucoup trop de décès dans les CHSLD. Et donc, ce matin, témoignage attendu, elle est sortie de son congé de maladie pour épuisement. La ministre responsable, entre guillemets, des aînés, je suis pas sûr qu'elle avait tant de responsabilités que ça, mais Marguerite Blais, donc, était quand même la ministre en titre. Et elle a commencé à témoigner, Philippe.
Oui, Jérôme, mais on l'attendait, ce témoignage-là, depuis l'automne dernier. Là, son témoignage était prévu le 16 octobre dernier, puis finalement, ben, ça a été remis à aujourd'hui pour les raisons, entre autres, que tu as évoquées. Elle qui sort de son arrêt de travail pour épuisement professionnel, elle tenait d'ailleurs à... J'ai pas envie d'utiliser le mot défendre, mais c'est l'impression que j'ai eue en écoutant ce témoignage-là, défendre son bilan puis sa présence ou ses responsabilités durant les premiers mois de la COVID-19. La ministre des Aînés qui n'a pas perdu de temps d'ailleurs avant de contredire des collègues, notamment Daniel McCann qui s'occupait de la santé à l'époque, le sous-ministre de Mme McCann et même d'Horacio Arruda. Elle qui dit que le 28 janvier, on ne savait pas que la COVID allait toucher les personnes âgées et qu'on l'a seulement appris par l'OMS le 9 mars.
Ah ouais. OK.
C'est pas ce que dit Mme McCann qui dit ben, il y a des avis qui ont été envoyés au mois de janvier à tous les établissements de santé. Puis selon ce que Marguerite Blais a avancé aujourd'hui, en voyant les avis avancés, elle dit il n'y a rien qui était clairement indiqué. Attention, dans les CHSLD, ça risque de frapper fort. Puis on connaît l'horreur qui s'est passée par la suite.
Mais je veux pas sauter d'étape, OK? Je vais te laisser déballer ça. Puis en passant, c'est dommage, on peut pas vous faire entendre d'extrait. Ça, c'est très, très dommage. Là. Ça devrait même être diffusé en direct
ben
sur,
oui.
Sur les réseaux. Mais tu sais, autrement dit, est-ce que cette stratégie-là d'envoyer plus de gens à CHSLD, si on a vu de l'équipement de protection, du matériel, des employés et des dirigeants de CHSLD, est-ce qu'on aurait pu sauver des gens? Est-ce que la stratégie aurait pu fonctionner? Je sais pas si on s'est rendu là, mais bref, je te laisse continuer.
Je vais te donner les informations qui ont été évoquées durant ce témoignage-là, qui a quand même duré durant tout l'avant-midi, et tu en concluras ce que tu voudras avec ça. Ce qu'on a fait au début, à partir de janvier-février, c'est qu'on regardait ce qui se passait en Europe, en Italie. Mm-hmm. Ça, c'est je reprends un peu les mots de Marguerite Blais. Le gouvernement regardait ce qui se passait en Italie, puis ce qu'on remarquait, c'est que les hôpitaux se remplissaient, puis qu'on était en train de faire du triage pour décider qui allait avoir le droit d'obtenir des soins, puis peut-être de survivre. Alors, on s'est dépêché du côté du groupe de santé ici à Québec, de la genre de cellule qui n'était pas encore une cellule de crise, à libérer les hôpitaux pour qu'on ait assez de lits pour accueillir les gens parce qu'on pensait que les hôpitaux allaient se remplir. On n'avait aucunement un focus, selon ce qui est dit, sur les CHSLD.
C'est la vision hospitalo-centriste. C'est le terme qui revient depuis le début de l'enquête.
Oui, puis on a tout pitché ça dans les CHSLD alors qu'il y avait...
C'est tout ce qu'on a dit aussi pour les CHSLD? Tu sais, la gastro, la grippe, Jérôme, ça fait en sorte que les CHSLD sont aptes à gérer des éclosions.
Ah,
c'est la mentalité qu'on avait. Puis tu sais, c'est facile avec le recul de dire « Hey, la COVID a été épouvantable et s'est propagée de façon incroyable. » Mais au mois de janvier, on s'attendait pas à ce que ça soit aussi gros. Puis on se dit « Ben, ça va être une éclosion comme la H1N1 peut-être,
ouais,
qui a passé assez rapidement. »
Mais s'il y avait du personnel, des dirigeants, du matériel de protection, il y avait peut-être une meilleure chance. Mais même à ça, tu sais, un endroit comme l'Hôpital Général de Québec, là, voyons. Ça date de 1700 quelque chose avec des pas équipés pantoute là. T'sais, d'envoyer des gens là, c'était complètement.
Je vais revenir sur l'équipement de protection individuelle aussi pour les employés. Avant, je termine le dossier là avant qu'on arrive à la création de la cellule de crise. Le fameux pitch de Horacio Arruda qu'on a vu dans des reportages qui a été raconté aussi par différents journalistes où le 9 mars. Horacio Arruda fait le pitch de sa vie, là, c'est le même qu'il l'a décrit, là, où il dit à François Legault, son cabinet et plusieurs autres membres du gouvernement qu'il y a une grosse crise qui s'en vient. Pendant ce temps-là, ce jour-là, Marguerite Blais est dans un avion et elle revient de Floride parce qu'elle passait ses vacances de la relâche en Floride, donc elle ne faisait pas partie de la rencontre. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle n'était pas toujours invitée ou que son ministère ne faisait pas toujours partie des rencontres importantes concernant la COVID-19.
C'est une pancarte, OK? Puis je le dis pas méchamment. Marguerite Blais, c'était une animatrice à Télémétropole ultra populaire dans les années 80-90. Et c'est aussi une dame qui a eu un bon capital de sympathie parce qu'elle est aidante naturelle, son conjoint, etc. C'est pour ça qu'elle était là. C'est pas à cause de ses compétences.
Ben écoute, quand j'étais... Parce qu'on se souvient qu'elle était libérale avant. Elle est arrivée à l'époque, ouais, où moi, j'étais au gouvernement.
Là, ça, c'est l'époque des clowns, là, dans les CHSLD. Là. Oui. On va envoyer des clowns pour les personnes âgées.
Paro, le phoque aussi.
Paro, ça, c'est Yves Bolduc.
Ça, c'était Yves Bolduc, hein, OK. Mais et quand on faisait faire des tests de crédibilité, de notoriété des ministres,
ouais,
ou d'appréciation, tu sais, était, écoute, dans la stratosphère,
ben
par,
oui,
rapport aux autres. Les autres étaient
venus,
c'est Marguerite Blais.
Mais oui, puis...
Très, tout ultra bien intentionné.
Oui, puis c'est ça, je veux pas...
Soyons clairs, là.
Madame de TVA, tu sais, c'est un peu... Regarde, j'ai l'air de blaguer un peu, mais ou de, tu sais, de l'avoir de travers, mais non. Elle a eu aussi un capital de sympathie. Rappelez-vous l'histoire de son conjoint, ça... Puis il fallait aussi, je veux dire, c'est normal que ça ait gonflé son capital de sympathie, mais c'est une pancarte. Pensez-vous vraiment que Marguerite Blais, c'est elle qui calait les shots, qui prenait les décisions, là? C'est un peu ce qu'on constate aussi, là, Philippe. Là.
Elle était quand même entourée d'une équipe de sous-ministres. Ouais. Pour en terminer, là, avec l'avant 9 mars, là, où on a vraiment constaté qu'il y avait une vulnérabilité pour ce qui est des infections chez les aînés, ce qu'on statuait, en gros, c'est qu'on pensait que ça allait aller dans les hôpitaux, puis on se disait que la culture de prévention contre les infections était tellement présente dans les CHSLD qu'on n'avait pas à s'en préoccuper davantage. L'INSPQ, selon Mme Blais, est arrivé le 19 mars avec une directive concernant les CHSLD. Ça m'amène à vous parler de l'équipement de protection individuelle. Vers la fin janvier, mis sur pied d'un comité de sécurité civile, quand on commence à voir ce qui se passe en Chine, à Wuhan, et la table des coordonnateurs évoque le recensement de l'équipement de protection, on en déduit entre janvier et mars qu'il y a suffisamment de pays d'équipement de protection individuelle pour une utilisation normale en CHSLD. Sais-tu où il y a une partie du problème qui fait surface, c'est que les CIUS et CIS ont le mandat de s'occuper de distribuer l'équipement de protection dans les CHSLD. Mais pour ça aussi, il faut que les dirigeants des CHSLD en fassent la demande. Il y a comme eu un manque de communication entre les deux. Si bien qu'on dirait qu'on est arrivé au mois de mars.
Parce qu'il y avait des réserves de matériel.
Il y en avait, mais pas assez.
Okay.
Clairement pas assez, parce que rendu au mois d'avril, les employés de CHSLD sacraient leur camp. Parce qu'il n'y avait pas assez de protection, puis ils craignaient pour leur sécurité. C'est là où on en est arrivé. C'est au début avril qu'on a eu un problème de perte de personnel. Et ce qu'a répété encore une fois Marguerite Blais durant son témoignage, elle l'a répété très, très, très souvent. D'ailleurs, là, Mme Blais, on avait l'impression d'assister au procès d'une accusée, là, qui, chaque fois qu'on lui posait une question, c'était pas un oui ou un non, c'était un « je vais vous expliquer tout le contexte autour
qui
de ça ».
Qui pose la question?
C'est la coroner, entre autres, mais elle est accompagnée de plusieurs avocats qui représentent différents partis qui peuvent ensuite aussi questionner, tout comme quelques médecins aussi qui sont présents.
Moi, je l'ai écouté pendant une bonne heure et demie, là, parce qu'on dit qu'on ne peut pas diffuser d'extrême, on pouvait se brancher et l'écouter.
On était 200 quelques, hein?
Exact. Dont Horacio Arruda qui était là.
Oui, pendant ses vacances.
Yves Gendron, l'ancien...
Il était branché?
Oui. Yves Gendron, l'ancien sous-ministre à la Santé.
Décroché, M. Arruda.
Non, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui voulaient savoir qu'est-ce que Mme Blais était pour dire, mais ce ton-là de procès ou d'inquisition, là, c'est Marguerite Blais qui le donnait. Je sais pas si c'est le même,
la
même
personne.
C'est-à-dire que la coroner et les avocats dans leurs questions étaient très, veulent comprendre. C'était pas, oui, mais vous, Mme Blais. Mais Mme Blais était très, très, très sur la défensive. Beaucoup.
Puis la coroner l'a répété plusieurs fois en l'entendant partir en vrai, en lui disant, Mme Blais, on n'est pas là pour faire votre procès.
Et
on n'est pas là pour
faire
des
aussi.
Reproches. On veut juste comprendre pour donner des réponses dans les prochaines semaines aux familles des 5000 quelques 6000 personnes qui sont décédées dans les premiers mois où la COVID a frappé dans les CHSLD. Mais c'est une impression. Puis peut-être à la défense de Mme Blais, il y a des habitudes. C'est pas la coroner qui pose ces questions-là, mais des fois, c'est « Vous voyez cette lettre-là? Vous voyez la date? Vous l'avez vue, cette lettre-là? » Fait que là, t'es comme sa défensive. si je te dis oui, tu vas-tu me mettre dans le trouble après? Mais c'est la job des avocats de s'assurer que on s'entend bien sur les faits avant de donner des réponses. Mais ouais, très, très, très sur la défensive. J'ai retenu un courriel de la représentante, la présidente de l'Association des établissements privés conventionnés qui va vous illustrer un peu à quoi ça ressemblait au mois d'avril, à savoir si on était en panique ou pas du côté du gouvernement par rapport à l'équipement de protection. C'est Annick Lavoie qui écrit, puis elle écrit pas. On dirait qu'elle a pas vraiment de canal de communication clair. Elle représente tous les établissements privés conventionnés qui doivent gérer eux-mêmes, techniquement, l'achat d'équipements. Ouais. Parce que les CHSLD vont en faire avec les CIUSSS, les CIS.
Mais les privés,
les
autres.
Les privés doivent s'arranger avec ce qui reste. Mmh. Et le 16 avril, elle envoie un courriel à un sous-ministre à qui elle dit « Je ne sais plus à quel sein me vouer pour avoir de l'information sur qu'est-ce qui se passe, quelles sont les directives. » Elle dit « Là, j'entends parler qu'il y a des directives qui sont envoyées dans les centres aux directeurs et aux PDG des centres intégrés. » Elle dit « Nous, on ne les reçoit pas, ces courriels-là. »
Ça, je pense que Radio-Canada avait obtenu ça.
Oui, avant
les
fêtes.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, Mme Le a répété, ben, la responsabilité, ça revenait au PDG, puis au privé conventionné et privé. Et elle a aussi expliqué que, ben, au mois d'avril, souvenez-vous, c'était une situation exceptionnelle. Il y avait des vols de cargaisons de masques. Tu sais, il y a un avion qui arrivait avec des cargaisons, des palettes, puis il y a du monde sur le tarmac qui allait dealer trois fois le prix
je me souviens
pour s'arracher les masques. Ce que je comprends des propos de Mme Blais aussi, c'est que toutes les entreprises qui ont fait le virage là, pour faire de l'équipement de protection individuelle, ils ont sauvé les fesses du Québec. Parce que on
comme était... les compagnies comme Bauer,
mettons. En Beauce aussi, la compagnie de jeans, là, qui je me souviens plus du nom, là, je suis désolé, mais qui a tout changé pour pouvoir en fabriquer. C'est venu nous sauver les fesses. Ça aurait été encore pire au niveau de l'équipement de protection. C'est ce qu'a dit Mme Blais, pas par rapport aux entreprises, mais elle dit une chance qu'il y en avait, puis il faut plus que ça réarrive, qu'on soit pas capable d'avoir des manufactures comme
quand
ça.
Quand tu penses à des compagnies, à des distilleries qui faisaient du Purel. Et c'était pas juste destiné à tout le monde, là. Écoute, la distillerie des Appalaches, là, qui font le gin Kepler, là. À un moment donné, ils ont mis en vente, ils ont fait
Arruda,
du Purel, OK?
Arruda Matata.
Oui, c'est l'Arruda Matata. Et là, ils ont annoncé qu'ils en mettaient en vente X quantité, mais que c'était plus pour les commerces, pour... Et moi, ma blonde, à sa clinique médicale, il y en avait plus. Fait que moi, j'ai été sonné, j'ai payé, j'ai acheté, je pense que c'était 3 gallons d'Arruda Matata pour aller porter à la clinique de ma blonde. C'était pas juste pour monsieur, madame, tout le monde. Ma blonde, c'est dans le système de santé. Il y en avait plus. Fait que ça a été ça, cette mobilisation-là. Là, tu parles des EPI, là, mais même le désinfectant, là, on se souvient plus de ça, mais c'était ça.
C'est que avant le mois de mars, on estimait, selon le décompte, que tout allait bien.
Mais c'était quoi le déclic, là, le 9 mars? Si on résume un peu, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont réalisé comment? C'était des avis?
C'est la réunion du docteur Abouda. C'est la réunion. Castonguay l'a raconté dans
exactement. Puis la réunion, découlait peut-être pas nécessairement de ça, mais l'OMS venait de dire officiellement que là, les personnes âgées étaient particulièrement vulnérables. C'est le 9 mars là, où il y a eu un déclic. Mais on se demande pourquoi il n'y a pas eu de préparation. Je vous envoie rapidement deux derniers petits points. CHSLD Erron, 29 mars 2020, il y a un courriel qui est envoyé, encore une fois, à un sous-ministre. Situation difficile au CHSLD qui est évoquée dans le courriel. C'est le sous-ministre aux aînés. Établissement qui est déserté par le personnel. On commence déjà à parler de difficultés au Erron.
C'est la fameuse fois, la fameuse fin de semaine, c'est Montreal Gazette qui avait
il
n'y
avait plus
ça,
un chat où les gens ont abandonné à la place puis les gens sont restés dans leurs besoins, c'est-à-dire les couches pleines, etc., pendant des jours. Et c'est seulement 11 jours plus tard ou à peu près qu'il y a un article d'Aaron Derfeld de la Gazette, de The Gazette, qui met en lumière tout ce chaos-là. Mais il y a un courriel le 29 mars. L'article sort dans un média anglophone le 10 avril et c'est à ce moment qu'on déclenche une enquête concernant Erron.
Peut-être pour résumer les gens qui nous écoutent, là, il y a beaucoup de matériel dans ça, mais dans le fond, là, elle, est-ce que si je te dis elle, c'est une pancarte puis c'était d'autres personnes qui prenaient des décisions, c'est un peu ça qu'on retient aussi, là.
Et elle n'a pas été impliquée très rapidement, la responsable des aînés, entre le mois de janvier et le mois de mars. On comprend que les aînés n'étaient pas nécessairement la préoccupation numéro un par rapport aux mesures.
Moi, ce que je retiens de ce que j'ai entendu, c'est que Marguerite Blais, après la première vague, dans entre autres une entrevue qu'elle avait donnée, essentiellement ce qu'on avait retenu, c'est qu'elle disait « c'est pas de ma faute, j'étais pas écoutée ». La cellule de crise, etc. Aujourd'hui, elle revoit cette version des faits-là, puis elle a été confrontée à ça, ce qui est le prix du recul. Puis aujourd'hui, dans le fond, elle dit, c'est pas de ma faute, c'est pas celle du gouvernement, c'est le contexte. Il y avait plus de si, c'était la pandémie, donc elle fait ça. Et ce que la coroner Kamel essaie de démontrer, c'est que c'est pas une mauvaise volonté, c'est que les aînés ont été oubliés. Puis un avocat, à un moment donné, qui l'a questionné, qui a dit, écoutez, Mme Blais, Pour savoir comment gérer la pandémie dans les soins intensifs, on a demandé aux intensivistes comment faire. Pour savoir comment gérer la pandémie au niveau des problèmes respiratoires, on a demandé aux pneumologues comment faire. Il n'y a pas personne qui a été voir les gériatres pour
on leur s'en
dire
foutait,
comment on
ça.
S'occupe ah, des ça, aînés. À un moment savoir? Donné, oui. Ils l'ont fait. Mais au début, il n'y a pas personne qui s'est tourné vers des spécialistes en ce qui concerne les aînés pour savoir quoi faire.
C'était
et ce qu'ils veulent
important.
Savoir, c'est si Mme Blais a essayé de le dire. Et ça, c'est comme pas clair.
Et la coroner l'a fait remarquer, le comité là avec les gériatres, c'est de l'improvisation à ses yeux parce que c'est une sortie du docteur Nguyen qu'on a vu souvent et qui a dit « ça n'a pas de bon sens, on ne nous consulte pas, il se passe des choses ». C'était au mois d'avril et bizarrement, le lendemain, on le nomme président du comité des gériatres qui vont conseiller le gouvernement là-dessus. Et l'entrevue en question, là, une phrase qui avait marqué, c'est « le pouvoir, c'est le PM qui te le donne. Tu prends ce qu'il te donne ». Puis elle a utilisé l'espèce de métaphore de l'arbre là, que peut-être qu'on avait trop le nez collé sur l'arbre et non la forêt.
Hâte de lire le rapport de la coroner. Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'étapes?
Il reste un témoin, je pense que c'est le sous-ministre à la sécurité publique.
Qui va être clé. Lui va être clé, là, parce que la coroner pense que c'est lui qui va peut-être faire la lumière sur le qui manque dans le casse-tête.
Hâte de voir le rapport, hâte de lire ça. Est-ce qu'on aura besoin d'une enquête publique après ça? Une enquête publique plus large sur la situation des CHSLD? Puis je pense que oui, mais je trouve qu'on commence à avoir une bonne compréhension de ce qui s'est passé à cette époque-là. Hey, merci Philippe.
Philippe-Henri
Comeau, notre journaliste du réseau Cogeco ici à Québec. Midi 44, restez là. Beaucoup de choses à venir d'ici à 15h jusqu'à l'arrivée de Sylvain.